Chapitre 37. Les gravillons crissèrent quand Viggo Novak s'engagea dans l'allée de sa maison des mines. Après sa raclée au casino de Saint-Amand, il avait terminé la nuit dans une discothèque belge à Tournai. Les vibrations des basses, les brouillards de fumée et les battements de la musique techno n'avaient fait qu'amplifier son mal de crâne. À 6 heures du matin, il lui semblait vivre et revivre le drame à la manière d'un film sans fin. Le corps de Nathalie recroquevillé sur le lit, le bébé qui hurle, la tête entre les barreaux, l'appétit du gaz. Le passé mordait le présent, empiétait sur le futur. Nos futurs. Combien de temps subirait-il ces assauts cérébraux? Des jours, des semaines, des mois? Sa drogue. Il lui fallait sa drogue. L'opium vert pressé dans son carcan. La musique des billets, le velours des zéros. Il tourna la clé dans la porte d'entrée, ouvrit, alluma la lumière. Ses chairs se liquéfièrent lorsqu'apparut l'impossible. Sylvain Couteur se tenait au fond d'un fauteuil, les mains sur les accoudoirs, les jambes écartées avec relâchement. Vivant. Ses yeux brillaient de maléfice, ses traits s'organisaient pour tirer son visage en ombre de démence. Des larmes accompagnèrent son sourire quand il envoya « Salut l'ami ». Sans avoir le temps de comprendre, de réagir, Viggo perçut un souffle, un léger glissement, puis sentit les lèvres d'un canon s'écraser sur sa tempe gauche. « Ne bouge pas, connard. Bienvenue en enfer. » La force d'une poussée entre les omoplates, la rencontre avec un coin de table, la douleur qui se déverse, puis un rire ignoble. Sylvain crachait sa fureur, un mélange abject d'incompréhensible, de fermenté, de sursaut incohérent. Ses murs abritaient le cœur même d'un hôpital psychiatrique. Le pandémonium avait rouvert les portes de sa cité infernale. Viggo se redressa, se plaqua contre un mur, glissa jusqu'à un coin où il s'accroupit. « Qui êtes-vous ?» Vervec libéra les volets roulants, tourna le verrou. Elle portait des gants en laine. Il n'y aurait pas d'empreintes, ni de cheveux d'ailleurs. L'avantage d'être chauve. Sa voiture dormait loin de la ferme, garée le long d'une route. Une fois le travail effectué, elle irait la récupérer, contacterait les bonnes personnes, préparerait sa fuite. Mexique, Brésil, Amérique centrale, un vaste choix. On ne la retrouverait jamais. Dingue ce qu'on peut faire avec 2 millions d'euros. Tu t'es fait attendre, petit enfoiré. Regarde l'état de ton ami, le genre psychotique, délirant. Tu l'as bien caché, ce pognon, félicitations. Mais maintenant je te laisse 10 secondes pour me dire où il se trouve. Viggo plaqua ses genoux contre son torse, position de l'œuf. La femme qui se dressait face à lui ressemblait à un phare de granit, tout en angle, la gueule carrée d'un pitbull, style broyeuse de couilles. Elle a fermé les volets, porte des gants. Une fois en possession du butin, elle va nous liquider et offrir nos dépouilles aux rats. L'ingénieur écrasa un regard sur le mort-vivant. Les lèvres de Sylvain sourlaient par-dessus ses gencives. Ses yeux étaient des baïonnettes affûtées, ses poings deux boules de démolition. Il avait tout compris. Les somnifères, le monoxyde de carbone. Mais comment avait-il survécu à la morsure du gaz? Ou alors, cette femme tueuse était arrivée à temps, l'avait réveillée, contraint à se rendre au terril pour déterrer une valise bourrée de journaux, portant la haine à son paroxysme. Nathalie Couteur et le bébé avaient-ils survécu? Probablement pas. Et maintenant, le piège se refermait, le destin s'enroulait autour de son cou à l'étouffer. Ce magot maudit allait bientôt retrouver d'autres poches ensanglantées. Lui, Viggo Novak, allait mourir aux côtés de 2 millions d'euros. L'informaticien poussa sur ses mains, se décolla du sol avec une difficulté de vieillard. Les forces l'avaient abandonné. Seul l'arc nerveux solidarisait la membrane fragile de son corps. Il fit 3 pas en avant, fébrilement, perçut la tension électrique qui traversait les pores de Sylvain. 10 000 volts de rancœur, d'envie de presser du polac jusqu'à la moelle. « Après, j'ai l'autorisation de passer un petit moment avec toi », envoya le colosse en vrillant les mains. « Notre accolade ne durera pas longtemps, ne t'inquiète pas. » Viggo sentit son être partir en éclats, la peur se diluer dans ses veines. Il s'orienta vers la vétérinaire. « Alors voilà vos plans. Il me tue et vous le liquidez dans la foulée, de manière à simuler un règlement de compte. Je peux vous donner la totalité du butin, les 2 millions d'euros. Pourquoi nous éliminer? Je ne dirai... Vervec raidit les bras et ajusta sa visée. Tu ne diras rien à la police, je sais. Ferme-la et mine-toi, l'oseille.
Vigo découvrit quelques dents.
Vous ne les trouverez jamais. Tuez-moi et adieu la belle vie. Je veux un arrangement, moitié-moitié.
Vervec propulsa une semelle bien dense dans son entrejambe. Vigo se rétracta comme une araignée brûlée, la bave aux lèvres. Il s'écrasa sur le sol. Sylvain applaudissait.
« Ton pote m'a gentiment décrit l'endroit où habitent tes parents, » ajouta Vervec. « Il paraît qu'on peut passer par leur porte de derrière avec une clé planquée sous une jardinière. À croire que c'est dans les gènes. Refuse de coopérer et je pourrais leur faire goûter au fil d'une lame avant que le jour se lève. »
« Tu ne m'en veux pas, frérot, » dit Sylvain avec un air de fausse compassion.
« Il fallait bien que je négocie le droit sur ta mort. Je suis prêt à partir, à rejoindre ma famille, celle que tu as assassinée. Cette gentille femme va me donner des Donormil. Ça te dit quelque chose? Une boîte entière, je ne souffrirai pas. Contrairement à toi, tu as tout perdu, frérot. Tu sais, il y a un proverbe afghan qui dit « Tu peux tuer toutes les hirondelles, tu n'empêcheras pas le printemps de revenir. » Cet argent, il ne t'était pas destiné, quelles que soient tes méthodes ignobles pour le garder.
« Je voulais pas tout ça, » s'écorcha Vigo. « J'ai jamais voulu faire de mal à personne. »«
Évidemment, » commenta la vétérinaire. « Allez, amène-moi gentiment à la caverne d'Ali Baba. »
Vigo eut du mal à se décoller du sol. De la compote. Il lui semblait qu'une compote de sang lui tapissait l'entrejambe.
« Suivez-moi. »
Sylvain s'arracha de son siège, les poings serrés.
« Pas maintenant, » lui souffla Vervec à l'oreille. « Ne fais pas de bêtises. Tu l'auras pour toi tout seul dans quelques minutes. Et toi, devant, ne joue pas au malin. J'ai la gâchette facile. »«
On doit sortir par l'arrière, » expliqua Vigo. « Le butin se trouve dans la vieille réserve à charbon. »«
On a déjà regardé, » répliqua Vervec.
« Y compris dans le gros bro rempli de charbon ?»«
Une valise ne passe pas là-dedans, » bava Sylvain. « Ne nous prends pas pour des cons. »
Une valise, non. Mais les billets, oui. Vous ne vous êtes même pas demandé pourquoi je possédais des boulets de charbon alors que j'ai pas de poils?
Vervec s'injuria mentalement. Toute cette attente, cette multiplication des victimes alors qu'elle avait le pognon sous les yeux. Vigo poussa une porte massive en bois, pénétra dans la remise, tira sur une chaînette qui réveilla une ampoule crasseuse. Pas de fenêtre. Des toiles d'araignée couvraient le plafond, les briques s'effritaient, rongées par l'humidité, éclatées par le gel. Au fond, des pans de ferraille, des pneus de vélo crevés, une tondeuse avec son bidon d'essence. Sur la gauche, une fosse à charbon vide, un conduit d'aération bouché par un chiffon, et le broc d'étain débordant de boulets. D'un mouvement de canon, Vervec contraignit Sylvain à s'asseoir contre un mur. Elle se cala au fond, condensant les deux hommes dans son champ de vision.
« Allez, montre-moi ce pognon. Pas un geste de travers. Tu dévis tes paluches du bro et... vous tirez, je sais. »
Vigo ôta les quelques épaisseurs de boulet de la gueule du récipient. Des billets se froissèrent au creux de ses mains. Il jeta des liasses sur le sol, au pied de la femme armée.
« Regardez, votre fric, tout est là. »
Vervec sortit un sac poubelle de sa poche.
« Remplis-moi ça. »
Vigo s'activait. Perdait de sa substance au fur et à mesure qu'il livrait des poignées et des poignées de billets. Trois jours auparavant, il achetait ses cadeaux de Noël, jouait à la console le soir, passait ses journées à chercher un emploi. Citoyen, presque modèle, aux conneries près, fiston irréprochable, vie pépère. Aujourd'hui, il ne comptait plus les morts. Un type dingue allait lui faire la peau, une tarée tueuse d'enfants le braquait. Drôle de cauchemar. Il se pencha par-dessus le récipient, fit mine de ramasser les dernières miettes d'euros. Lorsqu'il se retourna, un éclair de métal traversa la pièce, sifflant comme une rupture de filin. Le poignard caché au fond du bro frappa Vervec en pleine poitrine. Côté manche, pas de bol. Sous l'effet du choc et de la surprise, la vétérinaire lâcha son arme. Vigo se jeta sur l'engin de mort. Trop tard, Sylvain pointait déjà le canon au milieu de son front. Vervec surgit, griffe en avant. Sylvain propulsa Vigo dans sa direction et balaya l'espace en mouvement, arraché à l'instinct.
« Bougez pas ou je tire dans le tas !»
La sueur se mêlait aux larmes sèches, transformant le visage de Sylvain en un désert de sel. Son index droit fusionnait avec la gâchette. Ses os tremblaient, son corps vibrait. La mort allait jaillir. Les trois à la suite. La tueuse, le traître, lui en dernier. L'affaire de deux secondes. Puis le calvaire serait fini. Une brillance de faucille luisait au fond de ses rétines. Vigo baissa les paupières, suppliant. « Ne tire pas !» hurla Verveig dans un dernier sursaut. « La petite diabétique, il n'y a que moi qui sache où elle est enfermée. Tu me tues et elle mourra par hypoglycémie. » Sylvain se comprima en un bloc de nerfs. Le revolver tanguait au bout de son bras, décrivait des courbures impossibles. À la moindre molécule de travers, il allait cracher la mort, irrémédiablement. « Réfléchis !» poursuivit Verveig, main en avant et doigts écartés. « Tu peux sauver quelqu'un, rendre une enfant à ses parents. N'entraîne pas cette petite dans ta folie meurtrière. Qui me dit qu'elle n'est pas morte ? Rien du tout. Mais je peux t'assurer que si on ne la nourrit pas prochainement, elle y restera. Il faut faire vite. » Incapable de penser, de juger, Sylvain braqua la gueule de feu sur Vigo, lui ordonna de se mettre à terre et lui écrasa la joue gauche du talon. « Garde le nez au sol, fils de pute ! Tu l'aurais fait, toi ? Sauver cette petite diabétique ?» Vigo respirait bruyamment, bouffait de la poussière. « Ne tire pas, je t'en supplie, réponds, enculé !»« Bien sûr, Sylvain. Oui, j'aurais tout fait pour elle. Allons la sauver. » »« Tu as raison, je ne vais pas tirer. » L'odeur monta d'un coup, emplissant le cloaque de lourdeur de plomb. Verveig se tassa dans un coin, bouche bée face à la folie de l'homme armé. De l'essence partout, sur les murs, le sol, le sac contenant les liasses. Sylvain fit sortir Verveig. « Je t'en prie, Sylvain, non !» Un verrou qui se ferme, des coups contre le bois, des cris étranglés. Le serpent de carburant qui se faufile sous la porte. « L'argent !» supplia Verveig. « Retourne à l'intérieur et sauve l'argent ! Le fric, putain !»« Tu fais moins le fier, enculé !» grogna Sylvain. Pas de réponse. Le silence. Sans doute une dernière prière. La pierre d'un briquet fit jaillir une flamme. Une déchirure dansante zébra le sol, s'engouffra sous la porte dans un ronflement maudit. Sous les premières lueurs illuminant les jumeaux de schiste, Sylvain envoya « Cet argent ne tuera plus personne. » Il contraignit Verveig à le devancer. « On part à pied et on passe chez moi. Je veux embrasser ma femme et ma fille une dernière fois. Après, nous irons sauver cette petite, en espérant pour toi qu'elle est encore en vie. »